Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. La victoire a remporté la Coupe Walter, bravo, bravo, ça fait la une de tous les journaux d'aujourd'hui. Et j'imagine que celui qui est au bout du fil, il y en a deux, il y a Yvan et il y a Monique, mais Yvan Deslauriers, je sais que vous suivez pas mal ce qui se passe concernant l'équipe La Victoire, alors j'imagine que vous avez le cœur heureux ce matin.
Ah mon Dieu, oui, absolument. C'est une très belle équipe. En fait, c'est une belle ligue aussi. C'est évident que pendant le match, il y a beaucoup... Les deux équipes essaient vraiment de gagner. Il y a une belle compétition. Mais à la fin, il y a beaucoup, beaucoup d'amitié qui est exprimée. Et dans les gradins aussi, moi, je suis allé à quelques reprises à la Place Belle. Et il y a une atmosphère bon enfant. C'est plaisant d'aller voir un match de la Victoire.
Bon, il faudrait y aller un jour. Mais en tout cas, je parle pour moi. Là, Monique, est-ce que vous êtes déjà allée assister
non,
à un match de la Victoire?
Allée. Non, je ne suis jamais allée, mais j'ai une question pour Yvan. Pourquoi la Coupe Walters?
C'est le nom d'une des personnes qui a créé la Ligue.
Ah, d'accord.
Madame Walters. Peut-être.
Ouais, c'est ça. J'ai regardé moi aussi parce que ça a piqué ma curiosité. Je sais que c'est un couple. La Victoire a récemment remporté. Alors, j'ai pas l'information devant moi, mais d'après ce que j'ai lu hier, il me semble que c'est un couple dont le nom de famille est Walter. Là. Ah. Et ils ont donné beaucoup d'argent pour faire exister cette ligue. Ils croyaient en ce sport. Le hockey au féminin.
D'accord.
D'où le nom de la coupe.
Ce sont des Canadiens? Je m'excuse de poser tout de suite.
Non, mais c'est bien. Vous faites un bon travail de journaliste. Je ferai la même chose.
J'ai devant moi, dans Wikipédia, le nom de la Coupe Walter a été proposé par Billie Jean King, une des deux instigatrices de la Ligue professionnelle de hockey féminin et membre du conseil. Elle est nommée en l'honneur de Mark et Kimbra Walter pour reconnaître leur engagement à permettre que se réalise la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin, une étape importante dans l'histoire du hockey féminin. Mais je cherche fébrilement pour savoir si c'est des gens d'origine canadienne ou pas et je ne le vois pas pour l'instant.
Okay.
Alors, on va continuer de faire nos recherches. On a du temps pour donner toutes les bonnes réponses à nos auditeurs et à nos auditrices. Et à Monique Kerouac.
Merci beaucoup.
Yvan, vous allez nous parler, non pas de hockey, mais d'un autre sport.
En fait, je me demande si j'avais parlé de sport ou d'un événement de société. La Coupe du monde des enfants des rues, C'est un événement qui a lieu en parallèle avec la Coupe du monde, qui va avoir lieu dans quelques semaines maintenant, et qui permet à des enfants de milieux pauvres de pouvoir compétitionner en jouant au soccer. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à cette participation-là. Il y a entre autres, ils doivent faire un discours. Il y a toutes sortes de trucs autour de ça. Donc, je vais vous sensibiliser, tiens, comme je l'ai été, à cette activité-là et à travers aussi les yeux d'une des participantes en question.
Merci. Et vous, chère Monique, vous allez nous parler d'odorat. Ça sent tellement bon de ce temps-ci, hein? Les sucs printaniers avec les odeurs de fleurs, j'adore.
Ben oui, tout à fait. On a aussi la terre. Enfin, c'est très riche, mais peut-être qu'on prend pour acquis ce sens-là. Il y a des personnes qui peuvent être éprouvées et ne plus ou perdre l'odorat ou en avoir moins en tout cas. Et il y a des chercheurs qui s'y sont intéressés, encore une fois, pour trouver peut-être des solutions pour retrouver son odorat, mais aussi peut-être susciter notre mémoire. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et donc, oui?
J'ai une toute petite information rapide. Madame Kimbra Walter, c'est une avocate américaine et une philanthropiste. Je sais pas. Je traduis de l'anglais au français présentement.
Oui, je viens de lire ça moi aussi. Mark et Kimbra Walter sont américains et non canadiens.
Voilà.
Il y a du bon chez les Américains. Merci.
Oh oui, beaucoup.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on aura également, outre Monique et Yvan et leur chronique? Il y aura la chronique Actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate du Canada, qui viendra, lui, nous parler du bilan du sommet entre les États-Unis et la Chine. En fait, il fera un bilan de ce sommet qui s'est terminé récemment. Et nous aurons aussi la chronique Parasport avec Dominique Tremblay, qui va nous parler notamment de para-athlétisme et de basketball en fauteuil roulant. On commence avec une nouveauté, celle de Rosie Vallant.
Confession, ces jours-ci, je divague, c'est normal. Dans ce fond abyssal, je m'y noie, intraitable. Confession, quand je dis, je ravale, point final, je confonds la totale, je n'y vois plus d'étoiles, vidée de mes mensonges, je pense au fait que les mers inondent, au moins je suis pas la seule à tomber creux, au moins tout le monde s'effondre aussi, au moins je suis pas la seule à chanter que c'est bientôt la fin du monde.
La belle voix de Rosie Vallant à l'antenne de Canal M. À la une de la presse plus, la victoire championne. Avec éclat, les Montréalais soulèvent la première Coupe Walter de leur histoire après avoir dominé la charge d'Ottawa dans le quatrième match. Toutes nos félicitations. Il y aura, bien sûr, on a fêté jusqu'aux petites heures du matin. Et il y aura aussi un défilé pour... manifester la joie et inviter les gens à embarquer dans le projet. Et là, il y a tellement de sports, ça se bouscule au portillon. Il y a la F1 en fin de semaine, le hockey des Canadiens de Montréal, bien, le hockey tout court qui se poursuit dans la Ligue nationale de hockey. Puis les Canadiens seront à Montréal, ça va se passer en fin de semaine. Ouais, il y a un match ce soir aussi, c'est vrai. Et à part de cela, donc j'entendais Madame Sauvageau là, qui parlait du défilé. Ils sont en train là, d'avoir des pourparlers pour s'arrêter, trouver une date qui va convenir à tout le monde pour que les gens puissent fêter et se sentir non pas coincés dans le temps. Donc ça devrait se passer la semaine prochaine. À suivre, on vous en donnera des nouvelles quand on en aura, bien sûr. Alors bravo à la victoire aussi qui est à la une du Journal de Montréal, un premier championnat pour les hockeyeuses de Montréal. Victoire et c'est ça, c'est l'émotion, c'est la joie, c'est l'émotion. La victoire de Montréal qui ne s'est pas fait jouer le même tour deux fois, conservant son avance afin d'être finalement couronnée championne de la LPHF pour la première fois de sa courte histoire grâce à 3 buts en troisième période sur les terres de la charge. La bande de Marie-Philippe Poulin l'a emporté 4-0 pour soulever la Coupe Walter au terme du quatrième match de la finale et apporter ainsi un gros trophée au Canada. Les olé, olé, olé des nombreux partisans montréalais ayant fait le voyage ont résonné au Centre Canadian Tire afin de féliciter leur joueuse favorite. Merci d'ailleurs au doublé d'Abby Rock, chaque fois sur des passes de Laura Stacey. L'ancienne des Sirènes de New York a su élever son jeu d'un cran à ses premières séries dans la LPHF. Alors, bravo, bravo. Et puis aussi à la une, Journal de Montréal. Bonne nouvelle, on parle des asperges du Québec qui sont arrivées. J'ai fait un petit marché hier et je m'en suis payé, on dit une botte d'asperges, un petit paquet. Et sont délicieuses. Ça n'a rien à voir avec les autres asperges. C'est tellement bon. Et on en annonce en rabais déjà. Est-ce que je vous dis où? Oui, supermarché. Ça commence par I, ça finit par A.
IKEA?
Ouais, peut-être. Et des asperges en kit. Je suis fière d'où on est rendu. C'est Kent Hughes, le Canadien, prêt pour une 3e ronde. Ça se passe ce soir contre les Hurricanes. C'est le directeur général des Canadiens qui dit cela. Et puis à la une du Devoir, la victoire s'empare de la Coupe Walter. Bravo. Inscription auprès d'un médecin, davantage de primes et moins de vérifications. Québec facilite la vie des médecins de famille dans un sprint pour inscrire des patients d'ici le 30 juin pour faciliter l'offensive d'inscription que mènent les omnipraticiens dans l'espoir de bonifier leur rémunération au 30 juin. Québec a levé le processus de validation des inscriptions qui permettait d'écarter des erreurs à constater. Le Devoir, de telles irrégularités ont récemment fait les manchettes. La presse a rapporté, par exemple, qu'un homme avait été mis au courant de l'inscription de sa femme pourtant décédée. Une dame de 99 ans qui vit en CHSLD a également reçu une lettre disant qu'elle avait été inscrite auprès d'un groupe de médecine de famille. Or, elle n'en a pas besoin puisqu'elle reçoit déjà ses soins là où elle est hébergée. À l'heure actuelle, les médecins de famille sont engagés dans un sprint. Ils doivent inscrire 500 000 patients québécois à un guichet d'accès d'ici le 30 juin pour obtenir une hausse de rémunération de 2,5 % qui correspond à environ 75 millions de dollars. Le Devoir a d'ores et déjà révélé que cette opération, d'abord présentée par le gouvernement comme de la prise en charge, constituait en fait un blitz d'inscription à un guichet d'accès.
Chez nous c'est l'été, chez nous y ont sorti les chaises sur la galerie. J'suis tanné d'entendre le bruit des vagues. Moi j'm'en vais chez nous, j'ai le goût d'entendre crier Manon viens souper. Attends.
jusqu'à décembre.
Manon vient souper, si tu viens pas, tu souhaites là, tu pourras t'embosser. Attends pas que maman soit tannée, pis qu'à descendre.
Beau dommage, tous les palmiers.
Oui, beau dommage. J'aurais pu mettre aussi un extrait de l'Heptade, mais ça aurait été un petit peu long parce que ce matin, on parle de l'Heptade, un grand spectacle qui sera présenté. C'est presque un miracle qui va se produire en fin de semaine, deux soirs à guichet fermé. Si j'ai la chance de vous en parler davantage, je le ferai. Mais c'est un beau projet initié par, entre autres, Louis Valois, qui faisait partie d'Harmonium, qui aura 77 ans l'année prochaine. Et il se peut que il y a d'autres représentations. Ça reste à suivre, mais pour tout de suite, on entend Beau Dommage et pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de retour ou de présentation d'un des albums sur la scène. Michel Rivard est occupé, puis les autres ont d'autres choses à faire aussi. Alors là-dessus, c'est Yvan Deslauriers et sa chronique qui nous parle d'une Coupe du monde bien particulière, la Coupe du monde des enfants des rues.
Oui, c'est je m'inspire d'un article qui est paru sur le site de Radio-Canada par Julie Roy le 1er mai. Et dépendant du temps, je vais aussi peut-être me référer à un article dans La Presse sur le même sujet. Donc, Coupe du monde des enfants des rues, c'est l'expérience d'une vie pour de jeunes Montréalaises. Il y a 10 joueuses de la région de Montréal qui ont représenté le Canada à ce tournoi au Mexique. Ça s'est terminé il y a quelques jours, le 15 mai. Et je vous donnerai pas de résultats parce que d'une part, j'ai cherché et j'en ai pas trouvé. C'est d'abord la première raison. Mais je pense que le résultat est pas très important dans cet événement-là, vous allez voir. Pas même le vent, le froid ou la grisaille de ce jeudi d'avril, souvenez-vous d'avril, il n'y a pas si longtemps, n'aurait pu entacher la joie des jeunes joueuses de soccer qui s'exerçaient au terrain Toussaint L'Ouverture dans le centre-ville de Montréal. Et pour cause. Dans quelques jours après cette pratique, elle s'envolerait vers le Mexique pour y vivre l'aventure d'une vie. Celle de la Coupe du monde des enfants des rues. Alors, on va suivre particulièrement Lavinia, qui est une adolescente de 14 ans, qui est originaire du Brésil et qui habite Montréal depuis 3 ans. Elle dit « J'aime avoir chaud et j'aime l'été. Alors, j'ai vraiment hâte d'être là-bas, parce que notre mois d'avril a été plutôt frisquet. Elle faisait partie des 10 joueuses de 13 à 17 ans qui représentaient le Canada à ce tournoi qui a eu lieu au Mexique du 5 au 15 mai. C'était la première fois qu'une délégation féminine canadienne participait à l'événement organisé tous les 4 ans en marge de la Coupe du monde de la FIFA, la grosse Coupe du monde. Lavinia adore jouer au soccer. Étonnamment, ce n'était pas le cas de toutes les joueuses qui ont été recrutées par l'organisme Rêve Passion Montréal, qui est un organisme mandaté pour mettre sur pied l'équipe féminine canadienne. En réalité, je n'aimais pas trop le soccer, nous dit Zaineb, qui a 13 ans, avec le sourire aux lèvres. Je ne connaissais pas vraiment le jeu. Je ne pensais pas être choisie pour le voyage. Je n'arrive même pas à le croire. La Coupe du monde des enfants de rue est bien plus qu'un événement sportif. Grâce à des activités, à des ateliers et à des rencontres, elle vise à renforcer la confiance des jeunes, à développer la solidarité et la résilience et à sensibiliser à la cause du droit des enfants. Une trentaine de pays ont été représentés par des jeunes qui, pour la plupart, vivent dans la précarité. Les membres de l'équipe féminine canadienne font, elles aussi, face à certains défis. Selon Rebecca Sueur, qui est présidente et fondatrice de Rêve Passion Montréal, un organisme qui offre du soccer inclusif aux jeunes Montréalais issus de communautés plus défavorisées, elle dit « Ce sont de jeunes filles qui ont dû prouver, peut-être plus que d'autres personnes, qu'elles avaient leur place, qu'elles avaient leur voix, V-O-I-X. Que ce soit au niveau du décrochage scolaire, du décrochage sportif, de la transition vers l'âge adulte, c'est une période très fragile pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes filles. En vue de la Coupe du monde des enfants de rue, Mme Sueur et son équipe ont préparé les jeunes participantes sur le terrain, mais aussi dans des ateliers d'éloquence et de leadership. Après des semaines de travail, elles étaient prêtes autant pour la compétition sportive que pour le volet plaidoyer de l'événement. En effet, en marge des matchs, les jeunes canadiennes participaient au Congrès des enfants. Les jeunes de tous les pays y discutaient des 4 piliers du droit des enfants, soit l'identité légale, la protection contre la violence, l'accès à l'éducation et l'égalité des genres. Ils présentaient ensuite leur point de vue lors d'une assemblée en plénière devant des décideurs internationaux. Alors, une des membres de l'équipe, Sophia, qui a 17 ans, elle disait « Je suis nerveuse et j'ai hâte en même temps. On va devoir écrire un discours et le dire devant tout le monde. Mais parler du droit des enfants, je crois que c'est important. On va être mieux sensibilisés sur le sujet. » Selon la jeune femme qui est originaire de Colombie, avoir la possibilité de rencontrer des jeunes d'autres pays est une occasion formidable pour elle et pour ses coéquipières. Elle dit « Ça va changer comment on voit notre vie ici au Canada et nous aider à comprendre les problèmes autour du monde. Peut-être que ça va changer la voix, VOIE, de cette fois-ci, de quelques filles, de connaître des enfants qui n'ont pas les mêmes chances que nous. Je pense que ça peut changer comment on voit notre futur. » Pour sa part, Rebecca Sueur est convaincue d'une chose. C'est une expérience d'une vie pour certaines filles d'ici qui ne sont jamais sorties de Montréal ou du Canada. La participation à la Coupe du monde des enfants des rues est l'aboutissement d'un programme qui s'est amorcé à l'automne dernier et qui a déjà apporté beaucoup aux participantes. Laetitia dit « C'est que de la joie. Ça m'a apporté plus de confiance en moi. Je vais être meilleure au soccer et j'aurai de nouveaux amis. Je sais que je suis quelqu'un de timide de base, mais j'essaie de passer à travers. » Zaineb aussi est ravie de son expérience. ça a tellement changé mon quotidien. La manière avec laquelle je parle avec les gens, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Puis Sophia ajoute, je me suis vraiment améliorée au soccer. Aux autres niveaux, c'est plus facile pour moi de communiquer. Ça m'a beaucoup aidé à me connaître moi-même et à découvrir des qualités que je ne savais pas que j'avais en moi. Depuis le début, Rebecca Sueur est aux premières loges pour témoigner de l'évolution des jeunes joueuses et de leur progrès. De cette aventure, elle espère qu'elles retiendront un message en particulier. D'apprendre à être fières d'elles-mêmes et de leur histoire. On a toutes une histoire. On part de quelque part. On va vers quelque part. Mais si on ne sait pas toujours où on, même si on ne sait pas toujours où on s'en va, quelle que soit notre histoire, c'est d'avoir de la fierté à la raconter. Que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, la magie de ce programme, c'était ce mélange entre les deux. Alors ça, c'est l'article qu'on voit sur le site de Radio-Canada de l'écriture de Julie Roy. Et je vous parle en quelques instants d'un article que j'ai trouvé aussi dans La Presse du 7 mai de Jean-François Théotonio, qui parle particulièrement de Lavinia, toujours dans l'esprit de la Coupe du monde des enfants de rue. Ça disait « La valise de Lavinia est prête. Elle l'attend dans sa chambre, décorée sobrement sur le thème du soccer. » Dans quelques heures, la jeune joueuse originaire du Brésil s'envolera vers le Mexique avec 9 coéquipières pour participer à la Coupe du monde des enfants de rue. Et il y a eu des kiosques qui avaient été organisés dans plusieurs écoles dans des milieux défavorisés. Et c'est là que Lavinia avait vu la possibilité de participer à cet événement-là. Et elle a rapporté toutes ces informations-là à sa maman. Et aussitôt que sa maman a entendu cette possibilité-là, elle n'a aucune hésitation. Elle a dit « il faut que tu en fasses partie. Il faut que tu mettes les efforts pour participer à cet événement-là. » Et elle dit « je suis fière, nous sommes immigrants, nous sommes résidents temporaires encore. » Pour nous, c'est comme un rêve. On vient ici juste pour notre fille. C'est la mère de Lavinia qui parle. Quand elle est arrivée de l'école, elle m'a parlé du programme et j'ai dit, oui, tu dois y aller. Tu dois faire beaucoup d'efforts parce que c'est un programme excellent. Alors, je ne vous parle pas de résultats parce que je suis sûr que peu importe les résultats sportifs, ça a été une super expérience. Et l'expérience autour de l'événement sportif a l'air aussi étonnante et aussi impressionnante.
Oui, j'imagine qu'il y aura d'autres textes qui vont être écrits, même si les résultats sont plus ou moins importants. Ça serait bien d'en savoir davantage sur comment elles ont vécu l'expérience qui s'est déroulée jusqu'au 15 mai. Merci beaucoup, Yvan. Vous restez avec nous?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai des brèves plus tard.
Parfait. Il y a Monique aussi qui s'en vient avec sa chronique sur l'odorat.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Oui, je le veux tant t'aimer. Oui, je le suis tenté. Si le vœu de t'aimer tant brûle mes veines, il brise mes chaînes. Oui, je le veux tant t'aimer. Oui, je le suis tenté. Si le vœu de t'aimer tant brûle mes veines, il brise mes chaînes.
Oui, je le veux tant aimé. Oui, je le suis tenté. Et s'il veut le t'aimer, tant brûle mes veines. Il brise mes chaînes.
Je le veux, une chanson de Martin Léon.
Tirée de son album Facteur 20. Stimuler l'odorat peut-il être bénéfique pour le cerveau? Telle est la question. Monique Kerouac, c'est à vous.
Oui, alors une simple odeur, Hélène, diffusée pendant le sommeil, peut-elle améliorer votre odorat, votre mémoire ou même la qualité de votre sommeil? Bien, de nouvelles recherches explorent les bienfaits de la stimulation olfactive passive. Alors voilà ce que nous présentent Colline Sigrand et Benoît Jobin, tous deux spécialistes en neuropsychologie. Colline est à l'UQAM et M. Jobin est à l'Université Harvard et ça a été publié dans la conversation du 11 mai dernier. Une personne sur cinq présente une perte ou une diminution de l'odorat. Et cela peut survenir à la suite de différentes conditions, dont une infection respiratoire, une sinusite, une infection de type COVID-19, un traumatisme crânien, une maladie neurodégénérative ou une exposition à des produits chimiques. Invisible, certes, mais elle réduit fortement la qualité de vie des personnes qui en sont affectées. Les personnes touchées peuvent s'isoler par crainte de sentir mauvais, ressentir de l'anxiété, perdre l'envie de manger ou de modifier leur alimentation. La sécurité quotidienne est aussi compromise puisque détecter la fumée, le gaz ou des aliments avariés devient plus difficile. Enfin, cette perte peut nuire à certaines professions. On peut imaginer lorsqu'on est chef, parfumeur ou sommelier, pour qui, pour ces personnes, ben, l'odorat est un véritable outil de travail. Le traitement principal de la perte olfactive consiste en un entraînement olfactif. Tous les jours, matin et soir, le protocole consiste à s'exposer à des odeurs différentes pendant environ 30 à 40 secondes par odeur. Bien que les effets bénéfiques de la stimulation olfactive soient documentés par plusieurs études, le taux d'abandon, lui, est très élevé. Pour être efficace, l'entraînement olfactif requiert 2 séances par jour pendant 3 mois minimum. Alors, cette routine répétitive est contraignante et certains abandonnent avant d'en voir les bénéfices. Pour combler cette lacune, des chercheurs ont proposé une solution simple et accessible, la stimulation olfactive passive. Elle consiste à exposer le cerveau à des odeurs variées de manière continue, même durant le sommeil. Alors, sans effort, sans médicaments, cette pratique nocturne intrigue de plus en plus les neuroscientifiques en raison de ses bienfaits. Alors, en effet, certaines études montrent une amélioration de la mémoire, une meilleure qualité du sommeil et même des changements anatomiques au niveau cérébral. Ces effets reposent sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se remodeler en fonction des expériences et apprentissages. En sentant des odeurs, nous activons et nous stimulons le système limbique du cerveau. C'est la région clé qui régule les émotions et la mémoire. C'est un champ de recherche en pleine expansion. Cette approche demeure peu connue du grand public. Ses effets bénéfiques sur le cerveau pourraient améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes, d'autant plus que les pertes de mémoire, de sommeil ou d'odorat augmentent avec l'âge. L'odeur d'une tarte au sucre sortant du four peut peut-être suffire à raviver un souvenir d'enfance que l'on a vécu chez notre grand-maman. Véritable Madeleine de Proust, ce phénomène illustre le lien intime entre l'odorat et la mémoire. Il y a une étude publiée dans Frontier in Neuroscience qui a exposé un groupe d'adultes en santé, âgés de 60 à 85 ans, à une odeur différente chaque nuit, soit 7 odeurs en rotation sur une semaine pendant 6 mois. Mais les résultats montrent une amélioration, écoutez-moi bien, chères auditrices et auditeurs, de 226% de leur mémoire verbale comparativement à un groupe d'adultes non exposés. Vraiment impressionnant comme pourcentage.
Renversant.
Oui, c'est ça. Au niveau cérébral, les chercheurs ont rapporté une augmentation du faisceau uniciné gauche. Ça, c'est une sorte d'autoroute de communication entre les régions du cerveau impliquées dans la mémoire et l'apprentissage. Le fait que cette structure soit positivement modifiée par la stimulation olfactive passive laisse sous-entendre que les effets ne seraient pas qu'éphémères. Ainsi, la stimulation olfactive pourrait agir comme un véritable booster pour la mémoire des personnes âgées. Cependant, bien qu'encourageant, ces résultats nécessitent d'être confirmés par d'autres études, notamment en raison de la petite taille de l'échantillon. On avait un groupe, mais on ne nous dit pas le nombre de personnes, en fait. Alors, les odeurs et le sommeil sont intimement liés. Et ce, depuis des millénaires. On nous rappelle que déjà dans l'Égypte ancienne, nos ancêtres brûlaient de l'encens de myrrhe pour protéger les dormeurs des cauchemars. Et peut-être des mauvais esprits aussi. Aujourd'hui, la recherche suggère que la stimulation olfactive pratiquée au moment de l'endormissement et durant la nuit pourrait effectivement améliorer le sommeil. Le sommeil, on le sait, est crucial pour le bon fonctionnement de notre santé physique et mentale. Au sens large, le sommeil permet à notre corps de récupérer, de réguler les émotions et d'éliminer les déchets métaboliques accumulés durant la journée, ainsi que soutenir le système immunitaire. C'est également un moment clé pour consolider les souvenirs en transformant les informations franchement apprises en mémoire à long terme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, en vieillissant, notre sommeil devient plus fragmenté, contient plus d'éveil, occasionne généralement un sommeil de moindre qualité. Il y a une méta-analyse regroupant plusieurs études qui démontrent que certaines odeurs peuvent améliorer la qualité du sommeil des personnes insomniaques. Je les nomme, il y a la lavande, l'écorce d'orange et la rose qui sont parmi les odeurs les plus étudiées. Mais il reste encore à mesurer leur effet thérapeutique respectif. Dans la même lignée, il y a une étude pilote qui a montré que la diffusion nocturne de l'odeur de la lavande peut améliorer à la fois le sommeil perçu et certains indices objectifs du sommeil mesurés par électroencéphalogramme. Comparativement à une nuit sans odeur, la nuit avec odeur de lavande était associée à un meilleur bien-être au réveil, à une diminution des perturbations du sommeil, ainsi qu'à une augmentation du sommeil lent, profond et de l'activité delta, qui est un marqueur, de sommeil plus profond et récupérateur. Ces résultats restent préliminaires, mais suggèrent qu'une stimulation olfactive passive durant la nuit pourrait favoriser un sommeil de meilleure qualité. Alors, on fait comment? Par où commencer? Pas besoin d'équipement sophistiqué pour s'initier à la stimulation olfactive passive. On peut sentir un parfum, des huiles essentielles chaque matin ou soir, sur les vêtements, entre autres. Utilisez un diffuseur ou un parfum d'ambiance dans votre pièce de vie. S'exposer à des odeurs différentes. Sentir un minimum 4 odeurs différentes, chaque type durant environ 30 secondes dans chaque narine, 2 fois par jour, pendant 3 à 6 mois. Pour préparer notre corps à s'endormir, on va tamiser la lumière, on cherche le silence, on enfile des vêtements amples. On mobilise, sans même s'en rendre compte, presque tous nos sens. Alors, pourquoi ne pas y ajouter une odeur apaisante avant de fermer les yeux, si ça peut nous assurer un meilleur sommeil?
Oui. Avez-vous déjà fait ça, vous, Monique, mettre une petite goutte d'huile essentielle sur votre tête d'oreiller?
Oui, je fais ça avec de la lavande.
Ah oui, mais si on veut multiplier les odeurs, il faudrait acheter quelques bouteilles.
Exactement, mais il y a parfois des petits kits avec... j'en ai acheté, par exemple, chez Bleu Lavande, et il y avait des odeurs de cèdre, des odeurs de forêt mixte. Il y a aussi le romarin, l'essence de romarin qu'on peut sentir.
Oui.
Et mettre ça aussi dans un diffuseur, dans notre chambre, et puis... Je tente l'expérience là depuis quelques jours. Je vous en reparlerai.
L'affaire est dans le nez. Merci.
Tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle. Bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je la vide de tes veines, jusqu'à ce que rien te rappelle.
C'est le titre de cette chanson, Tant pis pour elle, chantée par Charlotte Cardin.
Merci Mathieu. Des brèves maintenant avec Monique Rouac et Yvan Deslauriers. Yvan, vous avez utilisé l'infopresse de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain pour nous servir quelques nouvelles tirées de l'infolettre.
Oui, et en tout temps, on peut se référer à cette infolette-là en allant sur le site de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Vous pouvez même revenir en arrière dans certains cas, là, il y a toute la liste des infolettres. Je mets un accent particulier sur quelques-uns des articles de cette semaine. D'abord, la formation Tandem pour les bénévoles. Je l'ai déjà fait, cette formation-là, et j'ai déjà été sur un tandem avec un membre de l'association derrière moi. C'est une super de belle expérience. Alors, cette année encore, l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain offrira aux nouveaux bénévoles qui souhaitent devenir pilotes de tandem de recevoir une petite formation. Parce que déjà, rouler en tandem, si on n'a jamais fait ça, c'est pas évident. Puis, de rouler en tandem avec quelqu'un qui voit peu ou pas en arrière de soi, c'est aussi une autre expérience. Ouais. On nous donne aussi un petit cours pour devenir guide avec une personne malvoyante. Alors, c'est tous des éléments de formation qui deviennent intéressantes et importantes. Alors, si les membres de l'association peuvent s'inscrire aux randonnées et se sentir en sécurité, c'est grandement grâce à cette formation. Celle-ci est destinée aux bénévoles qui voudraient participer aux excursions de tandem. Que vous soyez récemment inscrit à l'association ou que vous ayez participé à plusieurs sorties, mais jamais en tandem, nous vous demandons de signaler votre intérêt pour un entraînement offert par un bénévole expérimenté de l'association. Le but est d'abord de vous familiariser avec la conduite d'un vélo tandem, dont la manipulation est différente du vélo conventionnel. Deuxièmement, il s'agit de maîtriser le vocabulaire à utiliser afin de s'assurer de la meilleure communication possible avec son coéquipier. Et finalement, le but est de rendre les sorties plaisantes et sécuritaires pour tous. Alors, pour s'inscrire, pour montrer son intérêt, on va sur l'infolettre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain et il y a les références pour pouvoir s'y inscrire. Si vous aimez faire du vélo, si vous aimez jaser, si vous aimez raconter ce que vous voyez, c'est l'expérience à essayer. Ça vaut vraiment la peine.
Oui, vous nous en parlez à chaque année depuis que vous l'avez vécu. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose d'unique en son genre, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et c'est une expérience humaine aussi importante. Une fois qu'on a maîtrisé le tandem, après ça, ça devient carrément une expérience humaine entre des personnes qui ont des perceptions différentes de leur univers. OK, je m'arrête ici. C'est des brèves.
Alors, merci pour cette belle suggestion. Monique, comment expliquer les cris de douleur? J'imagine qu'il y a quelque chose de libérateur là-dedans, là, quand on a mal.
Oui, exactement. Bien, il y a deux hypothèses pour expliquer cette réaction courante. La première évoque l'activation des neurones responsables de la parole qui atténueraient les signaux de la douleur. Et la seconde veut que le fait de se concentrer pour émettre des sons diminue l'attention qu'on porte à la douleur. Et tout ça, c'est confirmé, bien sûr, par des études, mais il y a encore quelques incertitudes sur le sujet. Des études affirment que les vocalisations plus complexes diminuaient plus la douleur, mais un simple A avait quand même un effet. Quand on pense à autre chose, on pense moins à la douleur, et la diminution de la douleur dans ces études allait de 1,5 à 3 points sur une échelle de 0 à 10. Quand même, une étude de Pain Reports ne rapporte pas de changement dans le niveau sonore des vocalisations en présence d'une augmentation de la douleur. Mais elle observait une accélération des vocalisations et une diminution de la durée des pauses entre les vocalisations. Alors, ces recherches pourraient permettre d'évaluer de manière plus objective la douleur. Il est possible qu'en analysant les caractéristiques de la parole des patients et comment ils varient dans le temps, on puisse mieux mesurer à ce moment-là la douleur. Alors voilà, vous en savez plus.
Aïe, aïe,
sur nos petites exclamations.
C'est ça.
Mais... c'est peut-être pas le A qu'on entend le plus souvent. Hein?
Non, non, non. Je pense à la chanson Aïe, aïe.
Oui, oui. Et à tous les mots d'église qui peuvent te sortir.
Ah oui, oui. Le ouch aussi. Ouch, je ne sais pas si c'est français.
Pourquoi? Ouais. Ouais. Aïe, aïe, ouch, ouais. Ouch, est-ce, ouch peut-être.
Ça doit être sûrement dans le petit Robert.
Fait qu'on va arriver.
Oui, fait que c'est ça qui est ça. Yvan?
Vous m'enlevez les mots de la bouche. Toujours dans l'infolettre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, il y a un article qui a été écrit par Pierre Vromet, qui est président de la troupe de théâtre L'Arboretum. Mais l'art s'écrit L'A-R-T, Boretum. Alors, la troupe de théâtre L'Arboretum est composée en partie de personnes non-voyantes et elle présentera la pièce « Messe solennelle pour une pleine lune d'été » de Michel Tremblay.
Ah oui!
Le jeudi et vendredi 18 et 19 juin à 19h30 et le samedi et dimanche 20 et 21 juin à 14h à l'espace Larisée qui est situé au 1258 rue Bélanger, donc c'est à 12 minutes à pied du métro Jean Talon ou en prenant l'autobus 95 Bélanger ou en transport adapté. Alors, toutes les représentations sont présentées en audio-description qui se fera sans téléphone cellulaire, ce qui veut dire que tout le monde entendra les descriptions. Et cette année, l'audio-description sera faite par un personnage qui a été ajouté à la pièce et que nous appellerons la voisine d'en face. Les représentations sont d'une durée de 2 heures sans entracte. Il faut prévoir une marge de manœuvre pour votre transport adapté. Pour les personnes intéressées, il va être aussi possible de venir visiter la scène avant la pièce et de toucher à certains accessoires, mais avant deux représentations seulement, soit celle du vendredi à 16h30 et le dimanche à 13h. Pour y assister, vous devez réserver votre place auprès de Pierre Vromet en spécifiant si vous venez avec un accompagnateur. Et cela même si vous avez réservé votre billet. Prenez note que la visite durera entre 30 et 45 minutes et que vous devez quitter le théâtre par la suite pour revenir vers 18h30 le vendredi. Donc, prévoyez d'aller manger au restaurant durant cette période. Et il y en a quelques-uns sur Bélanger au coin de Jean Talon. Le prix du billet, c'est 25 $. Et comme c'est une petite compagnie théâtrale, ils ne peuvent offrir la gratuité pour les accompagnateurs. Mais je pense qu'à ce prix-là, c'est quand même bien accessible.
Oui.
Donc, vous allez pour les détails sur l'infolette de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain.
Rappelez-nous les dates des représentations.
C'est le 18 et 19 juin à 19h30. Si vous me croisez, vous me souhaitez bonne fête à ce moment-là. Et le samedi dimanche, 20-21 juin, à 14h.
Ah oui, c'est le 18, votre fête, hein?
Non, le 19.
Le 19, le lendemain. Alors, c'est une autre expérience stimulante que vous nous proposez. Merci. Cligne-t-on moins des yeux quand on est concentré? Je serais portée à dire que oui, Monique.
Bien, vous avez raison, Hélène. Assis dans une pièce insonorisée en fixant une croix sur un écran, 50 adultes ont écouté de courtes phrases diffusées dans un casque avec un bruit de fond plus ou moins fort, tandis que leur clignement de paupières était enregistré à l'aide de lunettes de suivi oculaire. La conclusion? Nous clignons systématiquement moins des yeux lorsque des informations importantes nous sont présentées, et d'autant moins quand la parole est plus difficile à comprendre. Nous cessons de cligner des yeux pour ne rien manquer de ce qui est dit, analyse la première autrice, Pénélope Coupal, qui est de l'Université Concordia. C'est une stratégie d'attention. On ne se rend pas compte comment notre corps réagit, hein, Hélène, à toutes sortes de stimuli.
Oui, alors il s'agit d'entendre ces informations-là justement pour en prendre conscience, mais on se le fait dire hein, quand on a des problèmes d'yeux, là, c'est que souvent ça a un lien avec un clignement parce que cligner des yeux, ça hydrate les yeux.
Oui, exactement aussi, c'est vrai. Et il y a des gens qui ont des problèmes d'hydratation.
Oui,
oui.
Alors, hydratons-nous.
Oui.
Et Yvan, est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter en lien avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain?
Une très, très rapide. Pour les adeptes du vélo tandem, j'en ai parlé tantôt un petit peu. Durant la semaine, vous aurez la possibilité de louer un tandem entreposé chez un des membres de l'association. Alors, allez voir sur l'infolette pour voir dans quelles conditions et de quelle façon vous pouvez louer cet engin.
Parfait. On va adresser le problème. C'est pas un problème. On va adresser la question à qui de droit. Je fais un petit jeu de mots, là, parce que c'est la capsule linguistique de Monique.
Oui, c'était une demande spéciale de votre part, Hélène. Alors, c'est un anglicisme tenace. On peut adresser une question à quelqu'un, on peut adresser des reproches à une personne et on peut adresser une lettre ou un colis. C'est de moins en moins fréquent, mais ça se fait encore. Mais adresser un problème, c'est un calque de l'anglais. En français, on a tellement de choix. On aborde, on examine, on étudie un problème. On peut aussi dire qu'on se penche sur un problème, on s'occupe d'un problème, on considère un problème ou on s'attaque à un problème. On a vraiment l'embarras du choix. Alors, s'il vous plaît, écartons ce anglicisme horrible d'adresser.
Oui, j'espère que vous serez entendu par le plus grand nombre. Sinon, il faudra réadresser.
Oui, on espère. Surtout le mettre en pratique.
Oui. Alors, merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, cher Yvan. Et puis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je pense que ce sera la dernière du mois de mai. Ça se peut-tu? Oh non, 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 il en reste non. une autre après, c'est vrai.
Il en reste une autre. Oui, oui, oui. Le 1er juin, c'est le lundi, pas ce lundi-ci.
Oui, mais... parce que je viens d'avoir une information là, qui m'a... popé, ça aussi, c'est un anglicisme dans la tête, puisque le 31 mai, imaginez-vous donc, je vais faire une petite promotion, je vais animer le concert du chœur Allegro qui souligne ses 55 ans cette année. Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, c'est pour ça que je me souviens que ce ne sera pas la dernière fin de semaine, en fin de semaine. Au plaisir, Yvan et Monique. Merci.
Vous écoutez Au quotidien. Avec Hélène Denis.
Les parasports avec Dominique Tremblay, qui a plein de choses à nous dire ce matin. Dominique, mais là, c'est une question qui me brûlait les lèvres. Est-ce que vous êtes content pour la victoire de Montréal qui a remporté la Coupe Walter?
Oui, je suis extrêmement content pour la victoire. C'était tout un match pour la victoire. Toute une saison pour l'équipe aussi qui a dominé vraiment beaucoup de la saison régulière, a terminé en première position. C'est vraiment quelque chose. Puis je suis surtout content pour Marie-Philippe Poulin, oui, qui porte l'équipe sur ses épaules depuis 3 ans. Aussi porté sur ses épaules le hockey féminin depuis très, très longtemps, là, presque une quinzaine d'années. Tu sais, avant la ligue professionnelle qu'on voit maintenant, là, que les équipes jouent devant des arénas pleines, c'était très difficile pour les meilleures joueuses de hockey au monde, les femmes pour jouer au hockey, de gagner leur vie en pratiquant le sport qui les aime. Ils faisaient ça vraiment pour la passion, souvent jouer devant 100 spectateurs. Alors de voir que la victoire gagnée le championnat avec 10 000 spectateurs dans l'aréna et les joueurs sont quand même reçoivent un bon salaire, une grosse différence avec le passé, et que la Ligue elle-même est en progression. Il va y avoir 12 équipes l'année prochaine. Alors, je suis vraiment contente pour toutes les femmes qui ont poussé pour que cette Ligue existe là. Et puis, ça augure juste bien pour le futur, puis pour les jeunes filles qui jouent au hockey. Donc, ça serait vraiment, c'est vraiment, vraiment cool.
Ça nous arrive quand on y croit, comme le chantait si bien Mario Pelchat.
Oui. En plein ça.
Dominique, donc, vous nous parlez, vous continuez avec un autre sujet. Deux Québécois qui se sont illustrés dans des compétitions de parathlétisme en Suisse.
Oui, la Suisse, donc, il y a deux compétitions, une qui s'est terminée la fin de semaine dernière et une qui se déroule en fin de semaine qui vient. La Suisse est un arrêt super important sur le calendrier mondial de course en fauteuil roulant, d'athlétisme en fauteuil roulant. Les deux pistes qui sont à Arbonne, entre autres, et l'autre est à Northwild, c'est des villes de la Suisse, ils sont extrêmement rapides et la crème de la crème de l'athlétisme en fauteuil roulant s'y retrouve. À chaque année. Brent Lakatos, le vétéran d'athlétisme en fauteuil roulant au Québec, y était en fin de semaine. Il a battu son record personnel sur 5000 mètres par près de 13 secondes. Juste vous dire quelque chose, c'est énorme de battre un record personnel
13 secondes.
Par autant de secondes. Donc, il a fini quatrième dans une course qui regroupait des athlètes de sa classification T53, mais aussi T54, qui sont un petit peu plus rapides que Brent Lakatos. Donc, surtout les meilleurs au monde, là. Et donc, c'est une très belle performance et ça augure bien là pour la saison qui s'en vient, les championnats du monde qui vont avoir lieu un peu plus tard cette année, et aussi le processus de qualification là pour les Jeux paralympiques de Los Angeles. Ça s'en vient quand même assez rapidement, seulement dans 2 ans. Brent avait pris une pause de compétition au cours de la dernière année. Et là, je suis vraiment content de le revoir sur les pistes et de dominer encore une fois ses adversaires là, dans la catégorie T53. Donc, je suis très content de voir ce que ça va donner. Et puis, ça augure bien pour le futur. Il y avait aussi Anthony Bouchard, qui était champion du monde sur 100 mètres dans la catégorie T52, donc un quadraplégique, là, mais qui est capable d'utiliser ses bras pour ses mains pour propulser son fauteuil, et a battu son record personnel sur 100 mètres aussi lors de cette même journée de compétition. C'est encore une fois une très bonne nouvelle. Les athlètes s'améliorent et font de plus en plus des meilleurs temps. Il a quand même pris la deuxième position. Donc, ses adversaires sont aussi bien préparés, mais ça amène des bonnes grandes vitesses pour puis d'autres belles performances. Là. Il a aussi réussi, Anthony, à courir le 400 mètres en moins d'une minute. Il a été le deuxième Canadien à faire ça. Donc, il espère d'améliorer ses performances au cours de la saison. Donc, c'est une ça augure bien là, pour les courses sur les pistes d'athlétisme à travers le monde pour cet été.
Tout ça est bien impressionnant. Oui. Rugby en fauteuil roulant maintenant, les championnats nationaux, c'est ça?
Oui, c'est les championnats canadiens. Bon, la semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'activités qui se déroulaient là, dans le monde du parasport. Bon, c'est la même chose. Là. Donc, les championnats canadiens de rugby se sont déroulés à Ottawa. Il y avait à peu près une douzaine d'équipes représentées, divisées en 2 divisions. Donc, l'Ontario a dominé, remportant la médaille d'or dans les 2 divisions. Le Québec, avec 2 équipes, a aussi remporté des médailles d'argent. Donc, c'est une très belle performance des équipes québécoises. On a aussi profité de ce championnat canadien pour nommer les 12 joueurs qui vont représenter le pays lors de la Coupe Canada 2026 qui aura lieu au début du mois de juin à Richmond, en Colombie-Britannique, là, sur le Richmond, l'Oval Olympique de Richmond. C'est une compétition, une des grosses compétitions de rugby en fauteuil roulant après les Jeux paralympiques et le championnat du monde. Il va y avoir 6 équipes, donc les meilleures au monde vont être là, avec le Japon, l'Australie, la France, la Grande-Bretagne et le Brésil qui vont compétitionner contre le Canada. Ça va être du bon rugby là, qu'on va pouvoir voir en Colombie-Britannique. Ça fait à peu près 20 ans que cette compétition existe et on va en reparler là, quand la compétition va se dérouler.
Parfait. On parle d'autres compétitions, cette fois les championnats canadiens en basketball en fauteuil roulant.
Aussi avait été aussi là, donc la compétition s'est déroulée en Colombie-Britannique, tant une compétition masculine que féminine. Donc le Québec a remporté pour la 5e fois d'affilée la médaille d'or dans la catégorie féminine. Donc l'équipe féminine de basketball en fauteuil roulant a gagné la médaille d'or. L'équipe était menée par Cindy Ouellet et blanc de mémoire, donnez-moi 2 secondes. Élodie Tessier, les 2 Québécoises qui s'illustrent aussi sur la scène internationale. Donc, de très belles performances des athlètes québécoises. Élodie Tessier, au cours de la fin de semaine, a été nommée l'athlète féminine de l'année. Elle a évidemment aidé l'équipe du Québec à gagner la médaille d'or, mais a aussi remporté la médaille d'or lors de la finale canadienne des clubs qui se déroulait à Montréal et a aidé le Canada à se qualifier pour les championnats du monde lors de la finale des Amériques. Donc, Élodie est une très bonne joueuse de Drummondville et on va la surveiller lors des championnats du monde qui vont avoir lieu à Ottawa au mois de septembre.
Dominique Tremblay, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye-bye.
Vous aussi, bye.
Voyez-vous dans leurs yeux ce petit quelque chose, comme un rêve brisé, une grande blessure jamais cicatrisée. Voyez-vous dans leurs yeux comme un hymne à l'amour qui dit merde à toutes vos bienséances, à toutes vos bien-pensances. Voyez-vous dans leurs yeux ce grand dégoût sincère de vous voir condamner ce qui ne se juge pas, ce qui ne se change pas. Voyez-vous dans leurs yeux cette envie d'être fier envers et contre tous, cette liberté sacrée, brûlante comme un soleil, brûlante comme un soleil. Voyez-vous dans leurs yeux ces pays intérieurs qui font fi des frontières, des règles et des lois dictées par vos faux rois. Voyez-vous dans leurs yeux la beauté de l'humain dans toute sa splendeur qui vous renvoie la honte et refuse la peur, et refuse la peur. Voyez-vous dans leurs yeux cette arrogance superbe, cette force naturelle de se tenir bien droit sous la pluie, dans le froid. Voyez-vous dans leurs yeux cette chance inouïe d'être simplement là, de faire partie de ceux qui ne s'excusent pas, qui ne s'excusent pas. Voyez-vous dans leurs yeux cette flamme superbe, celle qui vous brûlera si vous les approchez sans vraiment les aimer. Voyez-vous dans leurs yeux ce trop plein de violence que vous avez cherché en tentant de faire taire ces mille milliards d'étoiles qui ne voulaient que briller.
Pointe, une chanson qui s'appelle « Hymne pour ceux qui ne s'excusent pas ». Tiens, tiens.
Oui, on en connaît de même. François Larochelle, ancien diplomate canadien, est avec nous pour sa chronique Actualité internationale. Bonjour, François.
Bonjour, Hélène.
On s'appelle par nos prénoms maintenant. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez du plus récent sommet entre les États-Unis et la Chine. En général, les sommets entre les États-Unis et la Chine permettent de donner l'impression, faute de résultats concrets, qu'ils ont malgré tout pu engranger quelques succès. Celui qui s'est achevé justement à Pékin, c'était le vendredi 15 mai, semble pas avoir donné grand-chose au président Trump, qui est assez impopulaire chez lui, dans son propre pays. Il est empêtré également en Iran. Au contraire, les Chinois ont démontré qu'ils détenaient pas mal de cartes dans leur jeu.
En effet, la visite de Trump a probablement permis d'afficher une certaine stabilité entre les deux superpuissances, mais sans vraiment déboucher sur des avancées majeures. D'ailleurs, au premier jour de la visite, avec fermeté, le président chinois Xi Jinping a cependant, ne s'est pas gêné pour lui passer le message à son visiteur que la question de Taïwan était la plus importante dans les relations sino-américaines. Le président chinois a précisé que si elles étaient bien traitées, les relations entre les deux pays pourraient rester globalement stables, mais que si elles ne l'étaient pas, les deux pays se heurteraient et possiblement entreraient en conflit. La Chine, historiquement, considère Taïwan comme l'une de ses provinces qu'elle n'a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle souhaite toujours une solution pacifique, mais elle se réserve la possibilité de recourir à la force.
L'accueil réservé par le président chinois, son homologue américain, avait pour objectif de présenter les deux pays sur un pied d'égalité.
Oui, et je pense qu'on peut dire que cet objectif a été atteint. La Chine veut représenter la stabilité face aux désordres internationaux provoqués par Trump. Selon Xi Jinping, il faut éviter la fatalité d'un conflit entre une puissance en déclin, qu'il identifie comme les États-Unis, et une puissance montante qui ne peut être bien sûr que la Chine.
Alors Trump était en position de faiblesse.
Franchement, on peut dire qu'il avait l'air d'un vrai quêteux à la recherche de contrats et de l'aide de la Chine pour l'aider à se sortir de sa guerre totalement catastrophique en Iran, avec le blocage du détroit d'Ormuz en particulier. Pour essayer d'amadouer son hôte, Trump a dit qu'il était vraiment devenu un ami et qu'ensemble, ils avaient réglé beaucoup de problèmes que d'autres n'auraient jamais été capables de régler. On ne sait pas trop ceux auxquels quels étaient ces problèmes, ouais. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il prétend. Sur les accords commerciaux fantastiques que Trump a revendiqués, la précaution est également de rigueur. Le plus gros d'entre eux est une promesse de commande de 200 avions Boeing que la Chine, cependant, a apparemment confirmé récemment.
La Chine soumet de plus en plus explicitement ses achats aux États-Unis à leur entente diplomatique.
Oui. Les processeurs d'intelligence artificielle sont d'ailleurs en passe de devenir l'emblème de cette ambivalence chinoise à acheter américain. Pékin veut, par exemple, réduire au maximum sa dépendance aux puces américaines et en limiter les achats. Washington reste également dans l'expectative pour les produits agricoles. Les exportateurs de soja des États-Unis ont besoin du débouché chinois, mais Pékin préfère se tourner de plus en plus vers des pays amis tels que le Brésil. Le représentant du commerce de la Maison-Blanche, Jameson Greer, a dit s'attendre à un accord à venir en dizaines de milliards de dollars de produits agricoles par an sur les trois prochaines années. Mais tout cela reste à confirmer.
Mais c'est à nous. Taïwan, donc, qui demeure la première priorité, comme dirait l'autre, pour la Chine.
Oui. La question des ventes d'armes à l'île constituera d'ailleurs un premier test pour la relation Trump et le président chinois. Les États-Unis avaient annoncé un important paquet d'armement pour Taïwan d'un montant de 11 milliards de dollars en décembre 2025. Ils ont mis en attente un second paquet de 14 milliards de dollars pour ne pas mettre en péril le sommet là, qui vient de se dérouler à Pékin. Mais Taïwan s'inquiète maintenant des déclarations que Trump a faites juste après son départ de Pékin, mettant en garde le gouvernement taïwanais contre toute proclamation d'indépendance. Taïwan a alors réagi immédiatement en affirmant être une nation indépendante qui n'était pas subordonnée à la République populaire de Chine. En plus de tout ça, depuis 1982, l'un des grands principes de la stratégie américaine est de ne pas consulter Pékin sur justement des ventes d'armes à Taïwan. Pourtant, Trump a expliqué avoir parlé de ces ventes d'armes dans le détail avec son homologue chinois.
Ah bon?
Il a affirmé que ce dernier ne voulait pas la guerre et, semble-t-il, il fait comme le fait Pékin. Il décrit désormais Taipei comme un fauteur de troubles. On pense que Trump pourrait maintenant utiliser la menace d'aller de l'avant avec des ventes d'armes supplémentaires pour obtenir des concessions commerciales de Pékin. Mais c'est un petit jeu dangereux, surtout quand on voit l'incompétence qui règne à Washington en matière de politique étrangère.
Et sur l'Iran maintenant?
Bon, Trump s'est défendu, bien sûr, d'être venu demander de l'aide du seul vrai compétiteur des États-Unis pour presser Téhéran de réouvrir le détroit d'Ormuz. Mais c'est probablement un autre de ses mensonges. Il a aussi affirmé que Pékin s'est engagé à ne pas procéder à des ventes d'armes à Téhéran. La Chine n'a pas confirmé et nie de toute façon vendre des armes à l'Iran. Pour Pékin, cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer n'a aucune raison de se poursuivre. Il ne semble pas que la Chine soit vraiment en passe de laisser tomber son allié iranien, dont elle achète la majeure partie de son pétrole et qui aura sûrement des contrats pour reconstruire le pays au plan civil et militaire. Mais la fermeture du détroit d'Ormuz nuit à l'économie mondiale et donc à celle de la Chine.
C'est dans ce climat de divergence que Washington et Pékin ont ajouté une autre question, celle de l'IA, l'intelligence artificielle, dont le risque qu'elle fait peser sur l'humanité dans ses applications militaires, notamment.
Les États-Unis et la Chine se livrent en fait à une véritable compétition pour développer des armes alimentées par l'intelligence, pas alimentaire, mais artificielle. Ils se seraient cependant entendus sur la mise au point d'un protocole pour s'assurer que des acteurs non étatiques ne puissent s'en servir, car il y a toujours un risque de détournement de ces technologies par des terroristes ou des criminels. Dans ce contexte, les besoins en matière d'encadrement sont importants. Donc, une collaboration entre la Chine et les États-Unis pour atteindre ces objectifs reste toujours incertaine. Déjà en 2023, les deux pays avaient tenté d'un premier rapprochement pour échanger sur les risques liés à l'intelligence artificielle et justement discuter d'un protocole. En 2024, une rencontre s'était tenue pour aborder cette question, mais il n'y en a jamais eu d'autre depuis.
Donc, ce sommet, sauf de confirmer que les présidents pouvaient encore se parler, n'a pas donné grand-chose, du moins pour le moment.
C'est clair. Les Chinois se voient avec raison en position de force face aux États-Unis de Trump, qui apparaissent en plein déclin. Les Chinois sont connus pour être patients et ils ne pensent pas qu'ils ont un intérêt à aider l'administration américaine, sauf si cela pouvait servir évidemment leurs intérêts. La question du détroit d'Ormuz en est une. Ils pourraient peut-être aider à le débloquer avec l'aide des Iraniens et des Américains, mais ça, on verra dans les prochaines semaines. En même temps, Poutine était à Pékin. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de la Russie et son plus gros acheteur d'hydrocarbures, ce qui met cependant Moscou en situation de dépendance par rapport à la Chine, une situation plutôt inconfortable pour Poutine. Mais il n'y a pas vraiment le choix pour continuer sa guerre avec l'Ukraine. Poutine et le président chinois se sont probablement sérieusement parlé des vraies affaires du monde et ils laissent les Américains essayer de se dépêtrer avec leurs propres problèmes.
François Larochelle, ancien diplomate du Canada, merci beaucoup pour vos lumières.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
A dream that I and called my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that
on la refait jouer, Hélène. C'était At Last, d'Etta James.
Interprète extraordinaire. Le samedi 23 mai, ça s'en vient, va se tenir l'événement spécial Les Ateliers, un talent pas si différent qui va offrir des activités artistiques accessibles et inclusives. L'organisme Le Sillage, en collaboration avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale, invite le public à prendre part à différents ateliers gratuits en compagnie de membres de la communauté ayant des limitations ou des handicaps. Je poursuis. J'ai perdu mon texte. Comme par magie, de la magie noire, toi. Bon, Mathieu, sauvez-moi. Il est réapparu. Alors, les ateliers axés sur la participation, la découverte, l'expérimentation et les échanges se dérouleront de 9 à 16 heures à l'espace 400e. Des organismes seront aussi sur place pour échanger avec les visiteurs à des tables de présentation. Il est important de créer des espaces de rencontre entre artistes professionnels, organismes communautaires, le public et nos participants pour que ces derniers aient la chance d'avoir un accès équitable à la pratique artistique et culturelle. C'est ce qu'affirme Alexandre Doucet, agent de développement de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale. Le concept, un talent pas si différent, a vu le jour au Saguenay grâce à l'Association régionale en 2020. Depuis, le festival Un talent pas si différent se tient tous les deux ans dans le but de mettre en valeur la créativité des personnes qui vivent avec un handicap. C'est aussi un moyen d'encourager l'autodétermination en culture des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, souligne Josée Landry-Gagnon, directrice générale de l'organisme Le Sillage. Alors, voilà pour la nouvelle. Ouais, les activités entourant la F1, ça commence, oui. Ça commence aujourd'hui. Mathieu, vous allez y aller? Vous allez être le premier au rendez-vous?
Je vais cligner des yeux.
Ça veut dire quoi, ça? Vous allez passer votre tour? Non, vous me disiez que les coureurs automobiles n'avaient pas le temps de cligner des yeux.
Non,
parce qu'on
parlait
de l'importance de cligner des yeux.
Il y a peu d'endroits sur une piste de F1 où ils peuvent cligner des yeux. C'est souvent les lignes droites.
Oui, mais en même temps, c'est un réflexe. Hein? À un moment donné, on ne peut pas ne pas cligner des yeux.
Ils apprennent à contrôler.
Ah oui. Alors, on va essayer de faire ça en pensant à eux. Que le meilleur gagne. Et on regarde le hockey ce soir. Encore une fois, bravo à la victoire pour la Coupe Walter qu'elles ont remportée. On se retrouve mardi prochain.